Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour?
Un départ majeur chez France Télévisions, le coup de colère d'Emmanuel Macron, la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones et la belle semaine de l'équipe.
Mais d'abord, les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
En tête, on retrouve France 2 avec le retour d'Alex Hugo, la série la plus puissante de la chaîne. Elle n'a pas failli à sa réputation, avec 5,5 millions de personnes au rendez-vous pour 25,2% de part d'audience. C'est un très bon score pour la chaîne et pour la série. TF1 est deuxième avec la suite de la série américaine The Resident. Après son retour en baisse la semaine dernière, elle a limité la casse hier. Les deux épisodes de la soirée affichent une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs pour 15,1% du public. La chaîne est largement leader sur les femmes de moins de 50 ans. Elle pointe à 28,7% de part d'audience. Troisième, M6 poursuivait la saga Indiana Jones avec Indiana Jones et le Temple Maudit. Le film a fait trembler 2,5 millions de téléspectateurs, soit 12,5% du public. Face à la concurrence de France 2, c'est quand même 900 000 personnes de moins que le premier volet de la saga la semaine dernière.
Et on commence ce journal des médias après la virgule que j'ai oublié d'annoncer. La voici.
Culture Média.
Ce journal des médias qui démarre par un départ majeur à France Télévisions.
Le doute planait depuis des mois, mais hier, Takis Candilis a annoncé qu'il quittait le groupe public. Takis Candilis, c'est le numéro 2 de France Télévisions, plus précisément le directeur général délégué à l'antenne et au programme.
Évidemment, la question qu'on se pose toujours dans ces cas-là, est-ce que c'est un départ voulu ou subi?
A priori voulu, il a assuré au Figaro qu'il avait décidé dès son arrivée de ne pas poursuivre l'aventure au-delà du premier mandat de la présidente du groupe, Delphine Ernotte, qui a été reconduite à son poste en juillet. Pour autant, en juin dernier, il démentait les rumeurs de départ. Il assurait, je cite, « Je suis là et heureux d'y être ». Et sa patronne confirmait encore à Télérama la semaine dernière, je cite, « Il est plus que jamais là ».
Alors on va se pencher sur le bilan. Quel est le bilan de Takis Candilis?
Son départ intervient alors qu'il a participé à faire bouger le groupe, à lui faire reprendre des couleurs. Les audiences sont reparties à la hausse. Il a modifié l'organisation de France Télé en supprimant les patrons de chaîne et en créant des directions thématiques. Et il indique au Figaro qu'il préfère, je cite, « partir sur un succès ». A priori, pas de retraite au programme, mais un retour à la production de séries, métier qu'il connaît bien.
Une altercation qui fait beaucoup de bruit.
Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin.
La scène se passe au Liban mardi soir et elle a été capturée par LCI. Ce que vous venez d'entendre, c'est Emmanuel Macron qui incendie le journaliste Georges Malbruno.
Et alors qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être pris à partie aussi violemment et qui plus est en public?
Georges Malbruno, c'est un grand reporter au Figaro, il est spécialiste du Proche-Orient et il a publié lundi soir un article où il évoque la stratégie du président français pour réformer le Liban. Il y révèle notamment des échanges supposés entre Emmanuel Macron et le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, ce mouvement politique dont la branche militaire, on le rappelle, est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Des deux côtés, on estimait hier qu'il était déjà l'heure de tourner la page. Georges Malbruno s'est contenté d'une déclaration auprès de l'AFP. Je cite, je suis très surpris de la virulence de cette attaque qui est inacceptable et à laquelle j'ai répondu. Je me suis expliqué avec l'Élysée. Pour moi, l'incident est clos. Du côté de l'Élysée, on a fait savoir que ce qui avait provoqué cette colère, c'était le fait d'avoir publié ces informations concernant le président sans lui donner le droit de répondre ou de commenter. Là aussi, même conclusion, l'incident est clos.
Et forcément, un coup de colère comme celui-ci, ça fait réagir.
Et oui, évidemment, les condamnations ont été unanimes chez les journalistes comme dans l'opposition de la France Insoumise aux Républicains. La députée européenne LR Nadine Morano, par exemple, n'a pas manqué de souligner que cette sortie, qui met à mal la liberté de la presse, était particulièrement malvenue à la veille de l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo.
Beaucoup plus joyeux, hier se tenait le Grand Prix des médias CBNews.
Oui, Canal+, on est sorti grand gagnant avec pas moins de 6 prix, dont celui de la meilleure plateforme et de la meilleure campagne de pub. Autre vainqueur, le groupe L'Équipe, récompensé par 3 trophées, chaîne de l'année, meilleur titre de presse quotidienne et meilleur coup éditorial pour l'enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Cette bonne nouvelle s'est ajoutée aux audiences du mois d'août, on en a parlé. Elles ont été publiées lundi. La chaîne L'Équipe a enregistré son meilleur score historique en août avec 1,8% de part d'audience. On a évoqué ces victoires avec le patron de la chaîne, Jérôme Saporito.
C'était inattendu. Ça vient couronner tout ce qu'on fait depuis un an, c'est-à-dire de structurer cette chaîne, de solidifier les émissions, d'avoir des incarnations fortes et puis de miser aussi sur des sports Voilà, nous on a la chance d'être en gratuit. Moi je parle d'une chance. Alors ça veut dire que budgétairement on peut pas rivaliser avec les chaînes payantes, mais il y a une place parce que 70% des Français sont pas abonnés à une offre payante de sport. Donc il y a de la place pour faire émerger des sports qui méritent aussi d'avoir une diffusion en clair. Et ça c'est plébiscité par les téléspectateurs parce que voilà, encore une fois, tout le monde n'a pas accès à des chaînes payantes.
Un très bon début de semaine donc pour le groupe L'Équipe après un week-end un peu plus compliqué. Dimanche, le journal avait été accusé de sexisme suite à son choix de une. La victoire lors de la deuxième étape du Tour de France du Français Julien Alaphilippe avait pris beaucoup, beaucoup de place en première page, ne laissant qu'un petit bandeau aux joueuses de l'OL suite à leur victoire en finale de la Coupe des Champions. Un rappel pour la marque L'Équipe qu'il ne faut pas négliger le sport féminin, même si la chaîne souligne que ce sont des femmes qui commandent ces trois sports principaux, le foot, le biathlon et le vélo, et qu'Estelle Denis est aux commandes d'une des émissions phares de L'Équipe.
On a encore beaucoup à faire parce que pour faire émerger encore plus le sport féminin, il faut qu'on prenne du temps aussi à expliquer qui sont ces championnes, d'où elles viennent, qui elles sont, quels sont leurs caractères, parce qu'on s'identifie aussi à des championnes. Et croyez bien que, évidemment, ça fera toujours parler. Et le fait que ça fasse parler, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des débats et que le débat, bah, il fait avancer. Et la place de la femme dans le sport, bah, plus que jamais, ça doit être centrale. C'est assez facile à dire, mais en tout cas, beaucoup plus respectée et trouver une place encore plus forte.
Une campagne d'information originale, campagne contre le Covid à destination des enfants.
Oui, c'est la rentrée et France Télévisions a décidé de faire appel aux héros de son offre jeunesse au coup pour apprendre aux enfants à lutter contre le Covid. La chaîne publique a mis à l'antenne une campagne d'information sur les gestes barrières. Objectif, apprendre à se protéger sans inquiéter les enfants, comme nous l'explique la directrice du pôle jeune public et animation de France Télévisions, Tiffaine de Ragnel.
Pour rassurer les enfants, on a fait le choix dans Raconte-moi les gestes barrières de favoriser l'identification en s'appuyant sur des personnages des séries d'animation que les enfants connaissent bien, 8 héros pour les plus âgés et 8 héros pour les préscolaires, d'avoir un discours simple, facilement compréhensible, appuyé par des images et d'avoir toujours un ton positif et rassurant. Pour les plus petits, la démonstration est souvent très didactique, sans second degré, et on recourt aux comptines ou aux chansons pour faciliter la compréhension. Et pour les plus grands, on complète la démonstration par beaucoup d'humour et des clins d'œil à l'audience qui participent aussi à rassurer les enfants.
Au total, 16 spots ont été mis en boîte, 8 pour les 3 à 6 ans et 8 pour les 6-12 ans. On y retrouve Petit Ours Brun, Choupi ou encore les Pyjamasques pour les plus jeunes et Boulébi, les As de la Jungle et Angelo, la Débrouille pour les plus grands.
Et ce qui est réjouissant, c'est que tous ces dessins animés ont tous des producteurs différents.
Oui, et chacun a mis la main à la pâte pendant l'été.
La série a été produite en un temps record, en partenariat avec le ministère de la Culture, le CNC, également le service d'information du gouvernement qui a validé l'ensemble des gestes sanitaires. Et par 16 producteurs de Anime France qui ont proposé chacun sur la série qu'ils ont créée une histoire originale d'une minute trente pour apprendre les gestes barrières. Et cette série, elle peut être lancée grâce à leur travail acharné durant tout l'été, à la rentrée, au meilleur moment pour parler de cette question de la sécurité sanitaire.
Les 16 spots sont diffusés depuis lundi sur les antennes de France 3, France 4 et France 5, mais aussi sur les plateformes France.tv, Lumni et bien sûr sur l'application Ocou.
Attention oxymore, on vous annonce que TF1 prépare une surprise autour de The Voice.
Et oui, si on en croit nos confrères du Parisien, l'année 2021 sera riche en voix. On le sait, on en a parlé la semaine dernière, la 10e saison est attendue en début d'année avec Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney dans les fauteuils des coachs. Mais la chaîne et la production ITV Studio France prépare une édition anniversaire qui devrait être diffusée plus tard dans l'année. On imagine fin août à la place de The Voice Kids.
Et alors qu'est-ce qu'elle aura de spécial cette saison ?
Alors on sait très peu de choses, c'est pour ça que je vous dis que c'est surprise,
ouais.
Philippe. On sait très peu de choses pour l'instant car TF1 et ITV refusent d'en dire plus. Ce qui semble acquis en revanche, c'est que Zazie et Mika seront de retour en tant que coach. La Une veut faire revenir des jurés emblématiques et les deux artistes auraient déjà donné leur accord selon toujours nos confrères du Parisien. Le tournage de cette saison aura lieu dans la foulée de la dixième, a priori autour du mois de novembre.
Et là, il y a beaucoup de déçus qui vont entendre cette nouvelle. Il faudra se montrer patient pour découvrir la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones.
Voilà, a priori pas avant 2022, donc deux saisons de The Voice, puis cette nouvelle série. David Benioff et D.B. Weiss, ce sont leurs noms, ils ont enfin trouvé le premier projet qu'ils vont développer pour Netflix. Si je dis enfin, c'est parce que les deux créateurs donc, de Game of Thrones ont signé leur contrat avec le service de streaming il y a déjà un an pour un petit billet de 200 millions de dollars.
Ils n'avaient rien fait pour 200 millions ?
Voilà, depuis un an, ils cherchent ce qu'ils vont faire.
Le gars qui a fait le chèque, dis donc.
Le premier fruit de cette collaboration n'aura pas grand-chose à voir avec le Trône de Fer. Ici, pas de marcheurs blancs, de sauvageons ou de combats de soldats. Il s'agit d'une adaptation de la trilogie littéraire du chinois Liu Cixin, dont le premier volet, qui s'appelle Le problème à trois corps, est paru en 2007.
Alors j'avoue, je ne connais pas, ça parle de quoi ?
Je ne connaissais pas non plus, je vous rassure. Ça parle du premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Dans les années 60, une jeune astrophysicienne envoie un message dans l'espace et ce message est intercepté par les trisolariens qui s'apprêtent à quitter leur planète malmenée par ces trois soleils, d'où leur petit nom de trisolariens. Dégoûtée par toutes les horreurs commises par l'homme, la jeune femme leur envoie des informations qui, elle l'espère, leur permettront de réformer la race humaine.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias.